Suivez Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à tous. Deux frères ou deux sœurs, quand nous n'en avons pas, nous rêvons d'en avoir. Et oui, en théorie, la relation fraternelle semble être le modèle parfait de la relation, faite d'amour, de complicité, de solidarité et de fidélité. Et pourtant, dans la vraie vie, la fraternité est souvent plus ambivalente, plus douloureuse qu'on ne le croit. Si bien que deux frères ou deux sœurs, quand nous en avons, nous rêvons parfois de ne plus en avoir. Rivalité, sentiment d'incompréhension ou d'exclusion peuvent détériorer la relation. Comment ne pas jalouser cette aînée merveilleuse qui aspire toute votre admiration et vous surpasse en tout? La relation fraternelle confronte les enfants à une dualité. L'autre est un rival, un intrus dont il faut se différencier. Cette dualité se définit à la fois par l'affection et le conflit, la rivalité et le pouvoir. Les relations entre frères et sœurs ne se vivent donc pas dans la belle harmonie qu'évoque le terme de fraternité. Bien des adultes qui aujourd'hui aiment tendrement leurs frères ou leurs sœurs ont vécu dans leur enfance sur un pied de guerre continuel. On oublie trop souvent que le premier crime sanglant de l'histoire de l'humanité est un fratricide, le meurtre du fils élu par le fils maudit, celui d'Abel, par Caïn.
Priorité santé sur RFI.
La fratrie, c'est donc notre thématique du jour, mais actualité oblige. Nous commençons avec un point sur la pandémie de Covid-19 en Afrique. Docteur Matshidiso Rebecca Mweti, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Alors, vous le rappeliez le mois dernier, il a fallu 98 jours pour atteindre la barre des 100 000 cas de Covid-19 sur le continent africain, mais seuls 18 jours ont été nécessaires pour franchir celle des 200 000 cas. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 800 000 cas et plus de 17 000 décès. L'épidémie prend lentement, mais sûrement de la vitesse. Comment expliquez-vous cette hausse des cas alors que le continent était plutôt préservé jusque-là?
Oui, en fait, l'Afrique se rapproche d'un million de cas de Covid-19. Nous sommes arrivés à 890 000 cas. Et nous attendons, nous estimons que pendant la semaine prochaine, nous allons arriver à 1 million, au chiffre de 1 million de cas. Donc, vous savez qu'au début, très tôt, les gouvernements africains ont imposé les mesures de confinement général qui nous avons donné le temps d'augmenter la capacité de la santé publique pour prévenir la propagation du virus. Donc, après quelques semaines, et avec les impacts très durs économiques, sociaux, pour le pays et les personnes, ils ont commencé maintenant à assouplir ces mesures. Et nous voyons dans quelques pays une hausse de nombre de cas. Par exemple, des pays comme le Kenya, le Madagascar, le Zambie, l'Éthiopie ont dû une augmentation de 20% de l'état de dernières deux semaines. Mmh. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui est fortement touchée, qui compte maintenant parmi le 5 pays les plus touchés du monde. Donc voilà ce qui se passe. Mmh. Il y a maintenant cet élargissement de mesures de confinement qui exige que ce soit les personnes qui se protègent, qui prend des actions pour limiter la propagation du virus.
Et pour l'heure, les tests ne sont préconisés que pour les cas suspects, les personnes avec qui ceux-ci ont été en contact et le personnel soignant. Faut-il dépister davantage et généraliser le dépistage?
Oui, absolument. Et ça, c'est un des grands défis de réponse de la pandémie en Afrique, parce qu'il y avait au niveau global un manque de tests, de kits de tests très, très grave. Et pour les pays africains, c'était un problème très grave. Donc, nous n'arrivons pas dans tous les pays d'avoir le dépistage assez. C'est vrai que nous pensons qu'il y a une sous-estimation des cas, mais nous ne pensons pas que c'est si grave qu'il y a des 1000 des personnes qui sont en train de mourir sans être connues, mais il faut que ce dépistage soit fait et l'identification des cas doit être faite très rapidement pour isoler les cas et leurs contacts et limiter la propagation du virus.
Alors, dans de nombreux pays, il y a des témoignages de soignants et d'acteurs de la riposte au Covid-19 qui font état de transferts de patients vers des structures extra-hospitalières et du coup d'une augmentation de la transmission communautaire. Comment éviter cela ?
Bon, je crois que ça, bon, d'abord, ces lieux d'isolement doivent être bien gérés pour éviter la propagation parmi les personnes qui sont isolées dans ces milieux. Et puis, deuxièmement, il faut que nous tous portons nos masques, nous essayons de garder la distance, nous améliorons l'hygiène. Ça veut dire que le lavage des mains ou bien l'utilisation de produits alcoolisés pour prévenir la propagation du virus, c'est ce qui doit être fait maintenant. Plus, augmenter la capacité de système de santé, de rapidement identifier les personnes et l'isoler, c'est plutôt garder les distances entre ces personnes pour limiter la propagation du virus.
Les fameux gestes barrières, voilà, porter un masque, tousser dans son coude, distance d'au moins un mètre, on le va le rappeler tout au long de cette émission, évidemment, on l'a déjà beaucoup rappelé. Merci infiniment, docteur Matsidiso Rebecca Mouetti, je rappelle que vous êtes directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Bonne journée à vous, merci. RFI. Et puis, chers auditeurs, méfiez-vous des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. À ce titre, je vous rappelle que Priorité Santé est également engagée dans la lutte contre ces fake news sur les réseaux sociaux avec les vidéos que nous produisons en français, en mandankan, en peul et en haoussa. Le programme s'appelle Corona Vérif, 20 courtes vidéos avec nos médecins, nos spécialistes africains pour tordre le cou à certaines rumeurs. Exemple, non, le citron ne permet pas de guérir du Covid-19. Allez, on en vient à présent à notre sujet du jour, la fratrie, les relations entre frères et sœurs. Elisabeth Bramy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous êtes psychologue clinicienne et auteur de livres jeunesse dont « J'aime pas mon prénom » et alors aux éditions PKJ. Alors, Nicole Prieur, philosophe et psychothérapeute familiale, disait « Dans la construction psychologique d'un individu, l'influence de la fratrie est bien plus grande que celle des parents. » Qu'en pensez-vous ?
Oui, tous ces éléments donnés, qui sont des données de notre vie, pèsent un poids énorme. Je pense qu'il faut pas considérer la fratrie comme une entité. C'est de la famille qu'il s'agit. Les parents sont là. Et je ne pense pas qu'on puisse parler de la fratrie sans parler de l'influence ou de l'impact des parents sur ceux qu'ils ont mis au monde, c'est-à-dire ce groupe hétéroclite. Et les parents ont à veiller à quelque chose de précieux qui est la loi, que ne ce soit pas la loi de la jungle. Or, les parents ne sont pas toujours assez vigilants et ne savent pas ce qu'ils mettent en place. Des fois, ils mettent en place des bombes atomiques qui explosent chez l'un, chez l'autre, parfois tardivement, et parfois il se passe des choses qui leur échappent complètement. Donc je pense que le rôle des parents est très très important.
Mais est-ce que l'accent mis par Freud sur la problématique oedipienne, donc l'enfant rêvant d'évincer son parent de même sexe pour prendre sa place auprès du parent de sexe opposé, a longtemps conduit à ne regarder les relations fraternelles que sous l'angle de la rivalité justement ?
Non, mais laissez Oedipe tranquille pour une fois, c'est pas trop grave. Il y a la question de chaque enfant avec son père et avec sa mère. Il faut juste savoir que chaque enfant finalement est unique. Vous êtes un être unique. Il n'y aura jamais personne d'autre que vous dans le genre où vous êtes. Vous êtes le Igor de la minute. Là, personne d'autre au monde ne l'est et ne l'a été. Chaque enfant est un enfant unique, en fait, à sa place, est fait par des parents qui sont les parents qui lui appartiennent à lui, c'est-à-dire qui l'ont conçu et fait à un certain moment de leur vie. Une mère de 4 enfants, qui fait le 4e, n'est pas la même femme et la même mère que quand elle a fait son premier. Elle a évolué, c'est quelqu'un d'autre. elle a changé, elle a d'autres qualifications en fait, et d'autres doutes et d'autres facilités. Donc chaque enfant est unique, chaque enfant devrait être aimé en fait pour ce qu'il est. Je parle d'aimer parce que les parents ont à aimer en principe les enfants, alors que le contraire n'est pas forcément indispensable. D'ailleurs,
il ne faut pas culpabiliser si on n'aime pas ses parents, c'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Absolument, absolument. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu à répondre ça à un enfant qui me disait « Est-ce que c'est normal que j'aime pas ma mère ou que j'aime pas mon père, etc. » Je lui ai répondu « Tu peux même les haïr, tu peux même avoir envie de les tuer. » Bon, évidemment, tu n'as pas le droit de le faire, mais bien sûr...
Oui, on est dans la symbolique.
mais bien sûr que c'est humain. De toute façon, l'amour et la haine sont le recto et le verso de la même pièce de monnaie, quoi. C'est exactement la même chose. Bon, les parents devraient cultiver plutôt les différences entre leurs enfants plutôt que d'essayer de les aligner dans un troupeau de colonies de vacances tous identiques. Ma belle-mère, qui était une juive tunisienne, disait toujours, et tout à fait d'une façon totalement, comment dire, on ne pouvait pas l'empêcher de le dire, mais c'était totalement à la fois hypocrite et faux, mes enfants, je les aime tous pareils. Il n'y a pas de pareil, ça n'existe pas.
Vous pensez donc qu'un parent peut préférer un de ses enfants? C'est politiquement incorrect, ça. Si un parent l'avouait à ses enfants, ça serait un coup dur pour celui qui est le moins aimé.
Alors, je vais vous dire un truc, qu'on avoue pas, les choses se savent et elles se sentent. Un bébé qui est aimé sait très bien qu'on l'aime, et un bébé qui n'est pas aimé sent très bien qu'on ne l'aime pas. Et dans une fratrie, l'un peut ressentir évidemment des privilèges et les capter. Et c'est, en fait, ce n'est pas une question de quantité d'amour, c'est une question d'affinité. Mmh. Il y a, si on était un peu plus courageux en tant que parent, on pourrait admettre quand même que avec machin, j'ai des complicités que je n'ai pas avec bidule. C'est honnête.
Oui, mais parfois c'est de l'ordre du fantasme. Je pense à l'aîné qui voit le deuxième arriver, ça va provoquer de la jalousie, évidemment, de la rivalité, pas forcément justifiée. Voilà, comment expliquer cette rivalité et cette jalousie qui sont deux choses différentes, hein, qui sont toujours très présentes. Qu'est-ce qui se joue derrière, finalement, derrière ce sentiment, qu'il soit vrai ou pas, finalement?
Bah écoutez, ce qui est drôle, c'est que les enfants qui sont jaloux de la naissance d'un petit qui vient d'arriver ont l'impression d'être soudain abandonnés. Ils étaient le centre du monde, ils étaient enfants uniques. Ils sont abandonnés, ils ne sont plus aimés, ils se sentent délaissés. Mais en même temps, le parent qui fait un deuxième enfant, s'il était honnête vis-à-vis de lui-même, et il y a beaucoup de mères qui jonglent avec cette difficulté, se demandent s'ils vont avoir assez d'amour à donner à deux, ou ensuite à trois, ensuite à quatre. Est-ce qu'ils ne vont pas être injustes dans la quantité d'amour? Or, la quantité d'amour, elle est infinie, en fait. Elle est infinie. Simplement, elle est de différentes natures. Voilà. Elle change de nature. Il n'y a pas de pareil. Il y a une quantité infinie. Il y a des moments où on ne se supporte pas, des moments où on s'adore, et on est tous des êtres humains. Et finalement, ça devrait se terminer plutôt bien, quoi, dans la paix. Mais ça n'empêche pas tous les conflits du trajet entre les deux, quoi.
Finalement, la jalousie entre frères et sœurs, c'est quelque chose qui ne se joue pas à deux, mais à trois. Il y a le père ou la mère.
Mais bien sûr.
Je suis le préféré ou pas?
Mais bien sûr. Ah non, mais ça, c'est évident. Et les parents, donnent le diapason de cette fratrie, puisque suivant les cultures, et c'est là vous ouvriez la question sur la religion, Abel et Cain, vous avez tout à fait raison. C'est là que se joue la culture religieuse de certaines des uns et des autres, et qui fait que par exemple, l'aîné est privilégié. Si c'est un gars, il va être le père, le deuxième père. Comment on va faire de la fille aînée, la deuxième mère, la boniche de tous les gars qui vont venir après? Ça, c'est des choses qui sont culturelles. Normalement, chacun devrait être aimé, soutenu, ce sont des enfants et on n'a pas à leur donner de responsabilité autre que celle d'être des enfants.
Mais ça, on va y revenir parce que c'est extrêmement bien important. Sûr. On sera tout à l'heure avec une psychologue de Lomé. On parlera des couples polygames notamment et des choses comme ça. Est-ce que la jalousie, est-ce qu'elle est fondamentale finalement puisqu'elle permet la différenciation de soi et de l'autre?
Oui,
elle permet finalement de devenir soi-même. C'est donc passage obligé, c'est ça?
Oui, tout à fait. La jalousie, elle est indispensable pour se situer soi-même dans sa différence, dans sa particularité, dans son identité. Elle est très bonne. Par exemple, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Mauvaise pioche ». C'est la quatrième fille d'une fratrie. On dit fratrie, on devrait dire sororie, ou je ne sais pas comment, il n'y a même pas le mot, vous voyez à quel point.
On parle souvent en masculin, malheureusement, c'est comme ça.
Écoutez, donc il y a quatre filles, comme c'était mon hommage aux quatre filles du docteur March. Donc j'ai écrit une quatrième qui a tellement de doutes sur le fait d'avoir été faite, parce que les filles se posent la question d'être dans le désir ou non des parents. Est-ce que vous attendiez un gars ou est-ce que une fille, ça allait? Mais quand on arrive en quatrième, c'est très compliqué. Tout à coup, il a fallu que je mette la mère de famille enceinte. Je me suis demandé si j'allais faire la cinquième fille, mais ça me faisait trop mal au ventre pour elle. Donc, je leur ai fait ce gars tant désiré. 4 fois désiré, 5 fois désiré. Et en fait, la petite, elle n'a qu'une chose à sauver, c'est le fait d'être la petite dernière, ce qui est une place qui peut être une place privilégiée dans une famille, c'est pas forcément le dernier roue de la charrette, mais en même temps, en étant la dernière fille, elle va devenir l'aînée de ce petit gars qui va naître. Et ce petit gars, elle en est forcément extrêmement jalouse parce qu'il a ce fameux zizi qu'elle n'a pas et que tout le monde attendait, enfin les parents, mais en fait, elle va se sentir valorisée par le fait que peut-être que c'est elle qui a clos la chaîne des filles et qui va pouvoir avoir...
Qui a permis aux parents d'avoir un garçon.
Eh oui, c'est ça.
Elisabeth Bramy, de nombreux auditeurs souhaitent vous poser des questions ou parler de leur situation personnelle. On est en ligne avec Évrard qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Évrard.
Bonjour Ida.
Bienvenue sur l'antenne de RFI. Alors, quel est votre témoignage, Évrard? Nous vous écoutons.
Ok, d'accord, merci. Je suis le Benjamin, famille de 6 enfants. J'ai actuellement 24 ans, 25 dans cette année. Plus jeune, j'avais de très bonnes relations avec mes frères et sœurs, surtout avec mes frères parce qu'on jouait ensemble et tout. Mais en grandissant, ça devenait de plus en plus compliqué, surtout avec le second de mes frères. L'aîné, lui, il est plutôt sage, il me donne de bons conseils. Sincèrement, je l'admire beaucoup. Mais ma relation devient beaucoup plus compliquée avec le second. Il est plus âgé que moi de 10 ans. On a fait les mêmes branches. Et voilà, actuellement, je travaille pour lui. Je travaille pour lui dans son service, mais il a tendance à me rabaisser devant les collègues. Ce qui fait que je perds un peu ma confiance en moi. Mais aussi, quand j'étais à l'université, par exemple, toujours, j'avais l'habitude d'aller chez eux les week-ends parce que lui, c'est vite marié, pour aller manger tout ce qui va avec. Donc, un jour, il m'a traité de parasite. J'avoue que ça m'a beaucoup blessé. J'ai même coupé d'aller là-bas en même temps. Et puis, un autre jour, mais bien avant, quand j'étais au lycée, je voulais créer moi aussi mon entreprise. Mais il m'a demandé si... Il m'a dit que je pouvais pas y arriver. Il m'a cassé, en fait. Du fait que aujourd'hui, entreprendre, pour moi, c'est... Ce n'est même plus dans ma tête. Pour moi, c'est impossible. Donc, c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Voici toutefois, la psychologue peut m'aider.
Bien, écoutez, merci infiniment pour ce témoignage, Évrard. Je donne tout de suite la parole à Elisabeth Bramy.
Je voudrais juste vous dire que je ne supporte pas votre mot impossible à la fin de votre présentation. Vous êtes dans un cas très très précis. Vous êtes un petit qui est soumis à un plus grand de 10 ans qui est devenu votre patron. Sachez que patron et pater, ça vient du latin, ça vient du mot père. Pourquoi malheureusement vous êtes soumis à ce frère de 10 ans, votre aîné, qui vous sert de patron? On se demande où est votre propre père dans cette histoire. Pourquoi vous pouvez être admiratif de l'aîné? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous a donné d'ailleurs comme conseil dans la situation affreuse où vous vous trouvez? Parce que vous dites, il me donne toujours des bons conseils. Là, on dirait qu'il vous en a pas donné de bons.
Oui, en fait, mon père, il est décédé il y a cela 10 ans, quand j'avais 14, 15 ans. Mais c'était à la suite d'une maladie de 2 ans. Il avait fait un AVC.
Vous voyez? Vous dites qu'il est mort il y a 10 ans?
Oui, quand j'avais 14 ans.
Quand il avait 14 ans, voilà.
C'est-à-dire qu'il est... C'est la même quantité de temps entre votre frère, actuellement patron, et vous-même.
Oui, oui, voilà, c'est la même quantité, 10 années, oui, voilà.
Donc ce frère se prend pour... Enfin, il se prend pour le, il est le patron, il se prend pour un père, mais en fait c'est un père abusif qui fait de qui vous êtes non seulement un pauvre gars qui peut pas réussir, mais en plus un parasite. Alors, je pense qu'il est temps d'arrêter les dégâts. Que vous dit votre frère aîné pour lequel vous avez de l'admiration à ce sujet?
Oui, en fait, j'en ai déjà discuté avec lui et même avec ma mère. D'abord avec ma mère me dit que le frère en question, c'est comme ça qu'il est, qu'il a toujours été comme ça depuis l'enfance. En fait, financièrement, oui, il est bien, donc de façon, il n'est pas peint. Donc il est beaucoup plus charitable en matière financière, tout ce qui est argent, il gère. Donc concernant le frère aîné, j'essaie d'en discuter avec lui. Donc il me dit de prendre de bonnes résolutions, que ça dépend des situations que j'aurai à vivre avec lui, mais de sincèrement faire un effort pour continuer pas à déposer les dossiers ailleurs pour trouver un autre emploi.
Bon, eh ben moi je trouve que vous avez fait assez d'efforts, on vous a créé assez de dégâts. Vous êtes probablement, parce que vous n'aviez pas la force de le faire, vous vous êtes soumis à cette situation. Je pense qu'elle a certainement assez duré. Vous êtes suffisamment cassé, mais j'espère qu'il y a quelque chose à recoller de vos morceaux pour ne pas rester sous la coupe de quelqu'un qui vous méprise ou qui ne veut surtout pas vous voir grandir aussi haut que lui, si ce n'est plus. Parce qu'en fait, il a peur que vous le dépassiez, ce gars-là, ce frère-là. Il a peur de ça. Vous avez sans doute... Il a senti que vous aviez la capacité de le dépasser. Donc, il est temps que vous fondiez votre entreprise à vous, que vous prouviez que vous n'avez pas besoin de lui et surtout que vous n'entriez pas dans le chantage familial, ni de l'AVC de votre mère, ni de personne. Et tant pis si vous risquez un petit peu de dire votre vérité et que ça va pas plaire, mais dans la vie, on ne peut pas trouver sa place comme ça. Il va falloir vous battre pour votre place et votre vie.
Oui, ben ça sera le mot de la fin, Elisabeth Brami, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir avec vous. En tout cas, on remercie vraiment du fond du cœur Evrard et on espère que les conseils d'Elisabeth Brami pourront vous aider à améliorer cette relation avec votre frère. En tout cas, très bonne journée à vous. Allô, mais Evrard. Écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la fratrie, des liens parfois compliqués entre frères et sœurs avec notre invitée Elisabeth Brami, psychologue clinicienne et auteure du livre de jeunesse dont J'aime pas mon prénom et alors aux éditions PKJ. Et puis à la fin de cette émission, bien comme tous les vendredis, nous vous proposerons une séance de relaxation avec le docteur Adrien Chaboch, psychothérapeute et hypnothérapeute. Elisabeth Brami, et on l'a vu, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne place qu'une autre hein, dans les fratries. Vouloir être à la place de l'autre, qu'est-ce que ça signifie finalement, quand on n'est pas content de sa position?
Quand on n'est pas content de sa position, c'est pas mal de pas être content, il faut se demander où est le manque, où est le problème, et je peux même dire que la colère peut être salutaire. Ne pas être content, c'est taper du pied et dire j'en peux plus, ça marche pas, ça me va pas, il faut que ça change. Maintenant, si c'est pour se coller dans l'ombre ou dans l'image idéalisée souvent de quelqu'un d'autre, c'est extrêmement dommage. D'ailleurs, ça fait des dégâts parmi tous les êtres humains, cette façon de se mettre à genoux devant un gourou ou de se mettre dans la dépendance de quelqu'un d'autre, un autre être humain, c'est hyper grave.
Mais on l'a vu un petit peu avec le témoignage d'Evrard. On ne va pas revenir sur ce rôle de l'aîné. On pourrait peut-être passer au rôle du cadet, finalement, celui par qui la jalousie arrive. Alors, il y a un terme très étrange, on l'appelle le puiné. Le cadet, c'est le mythe de l'enfant sandwich entre les deux. C'est quoi le cadet, finalement? Enfin, sa place, je veux dire.
C'est celui qui vient en second, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Celui qui vient en second, il a beaucoup de mal quand il est du même sexe que le premier. Forcément.
Ça exacerbe la chose, ouais.
Oui, bien sûr, parce que c'est un deuxième, c'est une espèce de doublure. Donc le deuxième, il va être obligé de se battre pour trouver sa place. Souvent, ils finissent par avoir beaucoup de force quand même, parce que ils vont se manifester. Ils vont se manifester si jamais, par exemple, la deuxième fille va très souvent jouer le gars qu'on attendait. Donc, elle va devenir ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, le garçon manqué. Elle va bouger. La première va jouer la petite fille modèle, très souvent. Elle a eu l'occasion de garder ses parents longtemps, ou 2-3 ans, ou 1 an, ou 2, toute seule, pour elle toute seule. Elle était la fille parfaite, bien proprette. L'autre va se déchaîner pour montrer qui elle est. Elle prendra... ou alors, malheureusement, elle peut aussi rester dans l'ombre et faire les frais de la première si la première est éblouissante. Et là, évidemment... le rôle des parents est déterminant, le rôle de toute la famille est déterminant, et je dirais même que le rôle de l'école est déterminant. Parce que quand le deuxième ou la deuxième entre à l'école et qu'on ne cesse de le comparer à la première qu'on a déjà vu passer, dis donc, t'es nulle en maths, toi. Alors ta fille, ta sœur, qu'est-ce qu'elle était bonne? Mais d'où tu sors, toi? Comment ça se fait? Et toutes ces comparaisons de famille à famille, de cousin à cousin, tout ça, c'est non seulement perturbant, mais ça crée des dégâts sans nom.
Alors, on a un autre auditeur, c'est l'habité, toujours à Lomé au Togo. Bonjour l'habité.
Allô?
Oui, bonjour l'habité, nous vous écoutons.
Oui, bonjour.
Allez-y. Et
moi, je m'appelle l'habité, j'ai 24 ans. Et moi, mes moments difficiles avec mon petit frère, le Benjamin, qui aimait beaucoup jouer le ballon après les cours. Et moi, comme je suis le grand-père et papa n'est pas souvent là, j'aimais jouer le rôle des parents. Donc, on se discutait beaucoup. Et après, j'ai su que c'était une erreur de ma part. Alors,
merci l'habité, je suis désolé, je vous coupe parce qu'il faut qu'on avance un petit peu dans cette émission. Donc pareil, docteur Lamy, un grand frère qui veut jouer un peu le rôle d'un père, lui qui est dans les sciences, le petit frère qui veut faire du foot, ça me rappelle une histoire d'ailleurs avec le petit Habib. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'habité?
On dirait un personnage de mon bouquin J'aime pas mon prénom.
Le petit Habib qui ne veut pas jouer au foot, lui.
Et ben voilà, Habib, il veut aller à la bibliothèque et il est la risée de ses deux grands frères qui voudraient qu'il joue au foot, justement. Je pense que un grand frère n'a pas joué à jouer au père, qu'on se demande où est le père dans l'histoire, que je pense que les pères ne sont pas remplaçables par leurs fils, même s'ils sont des aînés. et que chacun a le droit de choisir sa vie. Le foot, il y a pas, c'est pas déshonorant. La science ne vaut pas plus. La science a mené l'humanité à la catastrophe, peut-être davantage que le foot, parfois. Donc, laissons-le taper dans son ballon. Et d'ailleurs, voilà, je pense que l'habité, il a choisi sa voie, il a choisi la science, il n'a pas à l'imposer à qui que ce soit. Et la mère dans tout ça, moi, je me demande où est la mère. Quand le grand frère prend la décision, enfin, décide de jouer au père. Où est le père et où est la mère? Est-ce que la mère n'est pas une éducatrice? Qu'a-t-elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Tout ça, il faut creuser la question et surtout, fiche la paix à celui qui veut taper dans son ballon, s'il veut taper dans son ballon. C'est sa vie.
Voilà. Eh bien, on remercie l'habité qui nous appelait donc de Lomé au Togo. On reste d'ailleurs à Lomé puisque nous sommes en ligne maintenant avec Jeannette Barma qui est psychologue clinicienne au CHU de Lomé. Bonjour Jeannette Barma.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de RFI. Est-il plus difficile pour un enfant de trouver sa place dans une famille polygame, Jeannette Barma?
Bien, en principe, il n'est pas difficile pour un enfant de trouver sa place dans une famille polygame. Alors, cette place, en fait, elle a de droit. Et le tout dépendra donc des parents. Des parents qui ne devront pas interférer leur conflit dans les relations. Dans leur relation avec l'enfant et dans les relations fraternelles.
Mmh. Et est-ce que c'est la même chose pour une famille recomposée?
Pour une famille recomposée, quelquefois ça peut être un peu difficile parce que l'enfant peut avoir tendance à rivaliser l'autre partenaire de son parent. Enfin, le partenaire qui vient refaire la relation de couple, en fait. Il peut avoir cette rivalité-là entre l'enfant et l'autre partenaire, et ça peut rendre la relation un peu compliquée. Alors, le tout serait que chacun, en fait, surtout le nouveau partenaire, puisse, en fait, ne pas chercher absolument à prendre la place du partenaire divorcé ou bien du partenaire de fin. Donc, il faut considérer, en fait, l'enfant dans sa place, juste, dans sa juste valeur. Alors, par exemple, si c'est un couple, enfin, séparé, il est important que, si c'est la femme qui arrive dans ce nouveau couple-là, qu'elle ne cherche pas absolument à jouer le rôle de la mère de cet enfant qui est déjà dans le couple. Mmh. C'est important, donc, de respecter, en fait, cette relation-là, qui sera une relation entre un enfant et sa belle-mère, que ce soit une relation entre un enfant et sa mère. Puisque sa mère n'est plus dans la relation, c'est très important. Alors, ce qui peut créer le problème, c'est que absolument, cette nouvelle femme veut absolument prendre la place de la mère, qu'il peut avoir le conflit. Parce que l'enfant qui est là peut lui en vouloir d'avoir fait partie de sa mère pour prendre sa place. Et ça peut créer des rivalités et donc des conflits.
Jeannette Barma, des auditeurs nous laissent des messages, il y a des notes vocales. Il y en a une qui est pour vous, c'est Franck qui nous a appelé d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il souhaite vous il souhaite vous poser une question, me fait signe dans le casque, on n'a pas encore la note vocale de Franck. Donc on va y revenir. On parlait un petit peu tout à l'heure avec le docteur Elisabeth Brami de la place centrale des aînés. Pourquoi elle a autant d'importance en Afrique?
Bien, en Afrique, l'aîné est considéré comme celui qui doit servir de modèle pour ses frères. Et quelquefois, on lui lègue les responsabilités de gestion de la famille. Mmh. Donc, c'est une place qu'il prend de droit, en fait. Elle est là et il sait qu'il doit être le modèle de réussite. Il doit pouvoir veiller sur ses petits frères.
Mais est-ce que ça n'amène pas de la frustration chez les autres, justement? C'est un peu ça le problème. On l'a entendu avec les deux témoignages tout à l'heure.
En principe, non. S'il est juste dans sa place d'aîné à orienter les autres, en principe, il n'y a pas de frustration. C'est justement quand il veut faire un abus de pouvoir sur ses cadets qu'il peut avoir des frustrations.
Mmh. Allez, on a retrouvé Franck qui nous a donc laissé un message de Côte d'Ivoire.
Salut Gars, salut Elisabeth. Je me nomme Franck, je vis en Côte d'Ivoire, j'ai 30 ans, je suis précisément à Abidjan. Mon histoire, mon témoignage, c'est celui d'un enfant qui a grandi dans une famille de 14 enfants. Alors, je suis le 13e de cette fratrie. Et ma particularité, c'est que je n'ai pas connu l'affection de mon père. Contrairement aux 13 autres, moi, j'ai été, l'enfant à l'écart. Parce que je n'avais aucun amour, ni voyage, ni cadeau. Je n'avais droit à rien du tout ça venant de la part de mon père, contrairement aux autres. Voilà, et j'en ai souffert terriblement. Avec moi, c'était que le strict minimum, c'était l'école, c'était les habits et tout, point barre. Voilà, c'est ce qui m'a amené à développer de la jalousie envers mes frères et mes sœurs. Et plus tard, j'ai appris par ma mère que cela était dû au fait que mon père ne voulait pas de moi. Il a voulu qu'elle avorte. Lorsqu'elle était enceinte de moi, elle a refusé. C'est ce qui a amené à crier tout ça. Voilà, je ne comprenais pas. Et elle m'a dit que mon père ne voulait pas de moi. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Mes relations avec mes frères et sœurs sont des relations apaisées. Voilà, nous nous entendons bien. Ça va. Voilà, j'ai dépassé cela. Mais ce n'était pas vraiment facile. Voilà mon témoignage. Merci.
Jeannette Barma, apprendre qu'on n'est pas désiré, ça peut être très déstabilisant. Hein.
Mais déjà dans le vécu de ses relations avec ses parents, il a ressenti depuis très longtemps. Alors, quand il a commencé à donner son témoignage, je me disais justement, ça doit être un enfant indésiré.
Déjà, vous l'aviez deviné, oui.
Oui, je l'ai deviné, parce que c'est prototype. Mmh. Alors, quand un enfant n'est pas désiré, et finalement qu'il arrive, dans les relations déjà que les parents nouent avec cet enfant-là, l'enfant peut très bien se le vivre. Mmh. Et nous rencontrons beaucoup de cas comme cela en consultation, où les enfants posent les questions. Est-ce que vraiment mes parents m'ont désiré? J'ai l'impression qu'ils ne voulaient pas de moi.
Et Elisabeth Brami, comment l'enfant peut se construire sans l'estime d'un père ou d'une mère?
Bah écoutez, la preuve, ce Franck, qui me semble formidable, a vécu quelque chose de l'ordre d'une injustice totale. On l'a fait naître dans un contexte où d'autres qu'il avait sous le nez étaient heureux et avaient tout ce qu'il fallait. Et lui était le seul, c'était le canard boiteux, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il a été sauvé par un désir qui était supérieur à tout, c'est le désir de sa mère. Simplement, il l'a payé pendant 18 ans avant que sa mère lui dise la vérité. C'est dommage qu'elle ne l'ait pas dit avant, d'ailleurs. Il l'a payé parce qu'il a été la preuve vivante de l'impuissance de son père, à la fois de sa puissance virile. Il a été fabriqué par un spermatozoïde de cet homme-là, mais cet homme-là ne voulait pas être son père. Et il est tombé sur une femme qui finalement a obligé cet homme à se soumettre et à accepter cet enfant. Bon, eh ben, il l'a accepté dans ce qu'il pouvait faire. Ce père, finalement, il n'est pas totalement non plus dépourvu de paternité, puisqu'il s'est occupé de ce qui était fondamental, socialement exigé, c'est-à-dire et l'école et sans doute la santé et des choses, mais sur le plan affectif, comme cet enfant, ce Franck, était la preuve vivante de son impuissance, du fait que son épouse avait outrepassé son ordre d'avorter, quoi. C'est quand même très dur pour un enfant de porter ça. Alors, ça a dû évidemment faire des dégâts sur le plan du couple aussi. Et cet enfant, ce Franck, est construit de ce couple bancal. Où la femme a été quand même plus forte. Mais en tant qu'enfant, il a été plein et rempli du désir de cette femme, de cette mère, et évidemment avec tous les bons côtés et les dangers que ça comporte. On verra comment se passe sa vie. Il a eu une mère supérieure aux autres.
Bien sûr, oui. Ben écoutez, merci à toutes les deux. Merci Jeannette Barma d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne au CHU de Lomé. Et évidemment, merci infiniment Elisabeth Brami. On vous réinvitera également. Vous êtes psychologue clinicienne et auteur de livres jeunesse dont J'aime pas mon prénom. Et alors, c'est aux éditions PKJ. Tout de suite, on retrouve le docteur Adrien Chaboche pour la séance de relaxation. Priorité Santé, suite et fin, et nous allons respirer à présent dans Priorité Santé. Nous retrouvons tout de suite le docteur Adrien Chaboch, psychothérapeute et médecin au centre Vitruve, c'est à Paris. Docteur Chaboch, bonjour.
Bonjour Igor, bonjour tout le monde.
Alors quel est le programme de cette séance de relaxation? Déjà, dans quelle position doit-on se mettre aujourd'hui?
Ah, aujourd'hui, Igor, je pense qu'on a tous le cerveau en ébullition, y compris vous, après cette super émission. Et donc, je vous propose que nous puissions travailler sur notre attention et sur notre concentration. Mais alors, comme on est en plein dedans, la position dont je vous propose d'essayer, c'est celle dans laquelle vous êtes, très simplement. Très simplement, mais comme si on allait faire une petite pause sur image. Alors, comme on n'est pas une machine, on va ralentir cette pause. C'est-à-dire, soyez comme vous êtes là maintenant. Si vous êtes assis, restez assis. Si vous êtes debout, soyez debout. Si vous êtes penché sur quelque chose, voilà, exactement, Igor, ça va pour vous? Vous êtes bien comme ça?
Moi, je suis assis et tout va bien.
Parfait, très très bien. Alors, on fait une pause, comme si tout d'un coup, notre cher réalisateur pourrait faire une pause sur image. Et tout le monde, et nos auditeurs aussi, nous serions en train de faire une petite pause. Ce que nous faisons très rarement, vous en conviendrez. Parce qu'on a tellement de sollicitations, tellement de pensées dans la tête. Et on pense, et on se focalise. Vous le savez très bien. Et à la lumière de cette émission, vous avez plein de pensées dans la tête, plein d'idées, plein de projets, plein aussi de tâches à réaliser dans la journée. Et on est tellement focalisé sur chacune. Ça nous emmène comme si on faisait du saute-mouton, mais avec des pensées de l'une à l'autre, et encore une autre. C'est épuisant. Et alors, notre attention se dilue complètement. Et c'est notre problème. On est dilué. On est concentré, mais sur tellement de choses qu'on est déconcentré. On finit par s'éparpiller. On pense tellement à tout ce qu'on fait qu'on pense plus à rien. Alors, respirons. Ralentissons. Prenons un temps et ne faisons rien alors. Pour penser un petit peu à tout. Faites une pause image, une pause sur vous-même. Et déjà, vous remarquez, votre conscience vous l'indique, une respiration plus profonde. Exactement, voilà Igor, exactement, c'est tout à fait ça. Et on sent déjà l'inertie de tout ce qu'on était en train de trimballer dans nos têtes, dans nos mentales, dans toutes ces pensées encombrantes. Maintenant, laissez vos pensées se dépenser. Laissez-vous vous dépenser. Laissez-les passer comme des nuages dans un ciel qui s'éclaircit. Exactement. Plus aucune n'a une importance plus qu'une autre ou moins qu'une autre. Ce sont tous des nuages. Comme des sous-titres, on peut les regarder, on peut choisir de ne pas les lire. Et maintenant, Igor, vous voyez vos pensées passer et vous n'en faites rien. On n'en fait rien, comme un nuage qu'on n'interprète pas, des sous-titres qu'on ne lit pas. Ça vous passe, ça traverse et ça fait déjà du bien. Et voyez comme déjà notre attention se porte sur maintenant de nouvelles choses. Comme si dans cette pause, on a ralenti encore notre respiration. Et ma voix aussi vous accompagne au ralenti. Tout devient plus lent. Et ça fait du bien. Et dans cette lenteur, ce que nous n'avions pas le temps de sentir vient à votre conscience maintenant. Le dossier du fauteuil, moelleux, les mains lourdes là où elles sont posées, les jambes bien ancrées dans le sol qui s'appuie bien sous les pieds. Presque peut-être vous sentez comme si votre corps est dans le fauteuil maintenant, là où vous êtes, et vos oreilles entendent votre respiration. Et votre attention sent ce qui se fait dans votre corps. Peut-être est-ce le ventre, à moins que ce ne soit ces muscles en haut du corps, là, vers les épaules. Oui, c'est ça, exactement. Je les vois se détendre, s'allonger, s'étirer. Comme le temps s'étire, autant que votre corps s'étire prendre l'espace se sent mieux. Et c'est intéressant, on est déconcentré, on entend tout, on pense à tout et à rien, on sent tout ce qui nous vient. Et maintenant, vous remarquez peut-être des petits bruits autour de vous que vous n'aviez pas remarqué, les sons de votre corps autour de vous. Vous remarquez peut-être tel muscle qui était un petit peu engourdi, endolori. Et toujours cette respiration qui maintenant est si naturellement profonde qu'elle semble oxygénée jusque dans toutes les parties de votre corps, jusqu'au bout. Et ça fait tellement du bien qu'on a l'impression que ça dure une éternité. Vous en conviendrez, c'est bien agréable. Et nous sommes à la lisière de... On pourrait s'endormir, et en même temps, on n'est pas tout à fait complètement éveillé, pas non plus endormi, on est un peu entre les deux. En fait, on est bien. Comme à la lisière, si on aime bien l'eau, ben, ce serait comme si nous serions en train de flotter à la surface. Ou si on aime bien l'air, tel un oiseau qui plane sans effort. Sans effort, on est bien, et ça c'est rassurant de constater ces ressources qui s'indiquent à votre corps, à votre mental, ces ressources profondes qui sont en vous, ces ressources sur lesquelles vous pouvez toujours compter. C'est rassurant et ça fait du bien. Et de cette attention à tout et à rien, alors vous remarquerez que vous êtes vraiment présent. Mais tellement présent. Vous savez, comme dit cette expression que j'aime bien, que j'aime beaucoup, on sort la tête de l'eau. On sort la tête du courant, du tumulte. Ah, on est simplement à la surface, et ça, ça fait du bien. Et c'est vraiment tout naturellement, Igor, que de cette plongée ensemble, et tous ensemble avec nos auditeurs, et vous vous sentez revenir sans avoir... à être parti bien loin, si ce n'est en vous, là où sont vos ressources. C'est ça qui est agréable, on revient à soi-même, on est pleinement présent. Peut-être vos yeux sont rouverts s'ils s'étaient fermés, peut-être vos bras ou vos mains se remettent à bouger petit à petit. Et on remarque cette attention que vous avez maintenant, une juste attention. Une juste attention, parce qu'on s'est aventuré en pleine présence. Et alors, nouveau marque-page pour notre chronique d'aujourd'hui, laissez-y vos repères pour retrouver cette pleine présence en très peu de temps, à d'autres moments. Et Igor, ça y est, maintenant vos pensées sont bien là, votre corps est là, vous êtes avec moi Igor, tout va bien ?
Je suis avec vous, j'ai regardé passer mes pensées comme des nuages et elles sont revenues.
Parfait, super, merci Igor, génial.
Merci à vous. C'est vrai que ma respiration est beaucoup plus profonde et beaucoup plus posée. Merci, docteur Chaboche.
Merci, Igor. Merci à tout le monde. À très vite.
On vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à vous, docteur. C'est la fin de cette émission préparée par Assetou Samaki et Ophélie Lassène. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu et Laurent Hérault. Lundi, vous retrouverez Caroline Paré derrière ce micro pour un reportage sur les conditions de vie des réfugiés burundais du camp de Lusenda dans le sud Kivu en RDC. Bonne journée à tous et surtout, surtout, prenez soin de vous.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.